VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gabi Dorcy et Tatiana Mosso, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du mardi 13 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
La Gambie, quelle issue? Quatre chefs d'État à Banjul pour tenter de faire plier Yahya Jammeh.
Au Burkina, plusieurs centaines de manifestants ont réclamé justice pour Norbert Zongo, journaliste assassiné en 1998.
À Kinshasa, reprise des négociations dites de la dernière chance entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition.
Au moins 275 Maliens expulsés d'Algérie, ils racontent leur déboire au micro de VOA Afrique.
C'est officiel, Donald Trump a fait le choix du patron d'ExxonMobil pour diriger la diplomatie américaine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Une délégation de la CEDEAO conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de l'organisation régionale, est à Banjul pour tenter de convaincre Yahya Jammeh de se retirer du pouvoir après être revenu sur sa décision de reconnaître sa défaite. Les chefs d'État nigériens, ghanéens et libériens font aussi partie de la délégation. On fait le point avec Abdourahman Dia.
À leur descente d'avion, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a déclaré aux journalistes qu'elle espérait que la volonté du peuple prévaudrait. Les chefs d'État nigérians, ghanéens et sierra-léonais font aussi partie de la délégation. Yahya Jammeh a reçu ses homologues en début d'après-midi. Le chef d'État-major, le général Ousmane Badji, dont Adama Barrow avait affirmé avoir reçu son appui en tant que président élu, est arrivé aux discussions. Il a dit à un journaliste à Banjul qu'il recevait les ordres du président Yahya Jammeh car c'est lui qui paie son salaire. La délégation a aussi rencontré à huis clos Adama Barrow. La CEDEAO dit privilégier la voie diplomatique, mais le président de la commission, le béninois Marcel D'Assouza, a indiqué que l'organisation régionale n'excluait pas d'autres options. L'armée a pris ce matin le contrôle du bâtiment de la commission électorale et empêché les employés d'y entrer. Son président Alioune Ndiaye maintient toujours que c'est Adama Barrow qui a remporté le scrutin du 1er décembre dernier.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi à Ouagadougou pour réclamer justice dans l'affaire du meurtre du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998 sous le régime du président déchu Blaise Compaoré. C'est ce que rapporte l'agence France Presse. Journaliste d'investigation et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo et trois de ses compagnons ont été retrouvés morts carbonisés dans son véhicule le 13 décembre 1998 à 100 km près de Sapoui dans le sud du Burkina. Une commission d'enquête indépendante instaurée sous la pression populaire a conclu quelques mois plus tard que le journaliste a été tué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
En RDC, reprise du deuxième dialogue politique ce mardi à Kinshasa, après une trêve de 4 jours. Les 30 délégués représentant les forces de l'accord de la cité de l'Union de l'Africaine, de l'Union africaine et le Rassemblement ont retrouvé le siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour négocier un accord sous la médiation des évêques catholiques. Pour Déli Sessanga, membre du Rassemblement d'Étienne Tshisekedi, il faut absolument trouver des réponses aux 6 points de divergence révélés dans le rapport d'étape des évêques catholiques. Écoutez.
Tous les problèmes qui ont été épinglés par les évêques sont des problèmes majeurs parce qu'ils touchent au cœur de la crise que nous connaissons, qui a été provoquée par la majorité, entretenue par elle et dont il faut aujourd'hui mettre à contribution les efforts de chacun pour en sortir. Donc ce sont toutes des questions essentielles. La gouvernance institutionnelle, le processus électoral et la décrispation du climat politique. Ces questions sont d'inégale importance. Bien sûr qu'on va en parler parce que dès lors que la légitimité des institutions arrive à l'échéance, le statut de toutes les institutions se pose, y compris le président de la République. On a souvent oublié ici qu'il s'agit d'une institution et pas d'un homme. Je dis toujours que l'optimisme est des volontés, le pessimisme est d'humeur. Nous avons la volonté de sortir de la crise dont la majorité est responsable. Nous n'y sommes pour rien, le peuple congolais n'y est pour rien. Et il faut que cette majorité se ressaisisse pour qu'enfin on trouve une solution à cette situation qu'ils ont provoquée, où ils ont voulu enfermer le peuple congolais dans une impasse où ils ne pouvaient pas sortir. Et nous pensons qu'avec les énergies de chacun, nous pourrons trouver une solution à tous ces problèmes, y compris au fait que le président termine dans quelques jours son second et dernier mandat à la tête de ce pays.
Les propos de Déli Sessanga ont été recueillis par notre radio partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
CPI, le procureur a requis 8 ans de prison à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable par la Cour pénale internationale de subornation de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crime de guerre et crimes contre l'humanité.
Burundi, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa a proposé à l'opposition une rencontre que celle-ci s'est empressée de refuser, l'accusant d'avoir pris fait et cause pour le gouvernement de Bujumbura, a-t-on appris mardi auprès de l'opposition.
Les réfugiés burundais de Kigali rendent hommage aux victimes des violences de décembre 2015. Le 11 décembre, 3 casernes militaires, 2 dans la capitale burundaise Bujumbura et 1 dans une province voisine, ont fait l'objet d'une attaque coordonnée par des groupes armés hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza. Les violences, les pires enregistrées depuis un coup d'État manqué en mai, ont fait 87 morts selon le gouvernement, tandis que l'ONU évoque un bilan de 200 civils tués.
Au Sénégal, au moins 37 personnes ont été tuées en 3 jours dans le pays, dans des accidents de la route dont certains ont impliqué des pèlerins lors du Mauloud, une fête musulmane célébrant la naissance du prophète Mahomet.
Et Guinée-Bissau, le Premier ministre bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo a formé son gouvernement qui devait prêter serment mardi, près de 2 mois après sa nomination.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui une réunion d'urgence sur la situation à Alep-Est. Plus de 310 000 personnes, dont 90 000 civils, ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, l'ONU s'est alarmée ce mardi de l'exécution présumée par des supplétifs du régime syrien de dizaines de civils, dont des enfants, dans la ville d'Alep, que l'armée est sur le point de reconquérir totalement. Salwa Jafari.
Regardez pourquoi nous avons fui. Regardez son corps. Pourquoi ? C'est pour cela que nous nous sommes échappés. Pourquoi ont-ils tué mon frère ? Pourquoi ?
Oum Abdelrahman montrant le corps meurtri de son fils. Comme des milliers de résidents d'Alep, elle a été jetée sur la route de l'exode. Alors que les forces du régime de Bachar al-Assad semblent en passe de reprendre le contrôle d'Alep, les Nations Unies ont communiqué aujourd'hui sur des exécutions sommaires commises par les forces pro-gouvernementales. Ban Ki-moon appelle au respect des civils. Sur le plan militaire, la rébellion en perdant ses dernières positions va essuyer son pire revers depuis le début de la guerre civile en mars 2011. La reconquête totale de la deuxième ville du pays offrira au gouvernement et à ses alliés le contrôle de 5 principales cités de Syrie avec Homs, Hama, Damas et Latakia. À la demande de la France, le Conseil de sécurité se réunit en urgence aujourd'hui pour en débattre.
3 importants dirigeants du groupe État islamique sont morts dans un raid de la coalition en Syrie, a annoncé le porte-parole du Pentagone Peter Cook. 2 d'entre eux avaient pris part aux attaques terroristes et ont fait 130 morts l'année dernière à Paris. Daesh avait revendiqué la responsabilité de ces attaques. A préciser que si le Pentagone a fait l'annonce aujourd'hui, la frappe a eu lieu le 4 décembre, donc il y a 9 jours, à Raqqa, bastion des djihadistes en Syrie.
En Turquie, au moins 81 journalistes sont en prison, soit près du tiers de tous les travailleurs de la presse emprisonnés à travers le monde, selon le Comité pour la protection des journalistes. Les arrestations qui ont suivi le coup d'État manqué de juillet portent le nombre de journalistes emprisonnés à 259. L'an dernier, ils étaient 199. Les 81 journalistes turcs en question sont accusés d'activités contre l'État. Le président Recep Tayyip Erdogan a lancé une vaste purge depuis juillet, affectant la presse, les universités, l'armée et les fonctionnaires civils du gouvernement.
L'Union européenne n'envisage pas d'ouvrir de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion de la Turquie. Dans les circonstances actuelles, a annoncé ce mardi la présidence du Conseil de l'UE. À l'issue d'une réunion de ministres des 28 à Bruxelles. Dans les circonstances actuelles, l'ouverture de nouveaux chapitres n'est pas envisagée, a précisé la présidence du Conseil, actuellement assurée par la Slovaquie.
Donald Trump a nommé ce mardi à la tête de la diplomatie américaine Rex Tillerson, le PDG du géant pétrolier ExxonMobil et ami de la Russie. Bagassi-Koura, c'est un signal fort du président qui souhaite un réchauffement des relations avec Moscou.
La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Le Kremlin a salué un Rex Tillerson, un professionnel qui a de bonnes relations de travail avec le président russe Vladimir Poutine. Monsieur Tillerson, 64 ans, connaît très bien la Russie où, en sa qualité de patron du premier groupe pétrolier mondial, il a souvent fait des affaires, mais il a aussi développé une relation personnelle avec le président russe Vladimir Poutine. Les relations avec Moscou sont au plus bas depuis l'annexion de la Crimée et alors que la situation en Syrie, en particulier à Alep, est chaque jour un peu plus dramatique. Selon plusieurs médias, Donald Trump a aussi nommé l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, comme son secrétaire à l'énergie.
Encore une fois, le prochain locataire de la Maison-Blanche promet d'abandonner ses affaires avant le 20 janvier pour se concentrer sur la présidence. Et Donald Trump n'a pas donné, plutôt il a reporté à une date ultérieure la conférence de presse qu'il avait promise de donner ce jeudi sur l'avenir de ses affaires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne tout de suite avec l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nanit Talani.
La firme de private equity Leapfrog Investment va lever 800 millions de dollars pour son troisième fonds dédié aux services financiers en Afrique. Leapfrog estime qu'il existe des opportunités d'investissement dans les entreprises qui ciblent les consommateurs qui gagnent entre 2 et 10 dollars par jour. Il représente 66% de la population africaine, tandis que les classes moyennes représentent moins de 15%. En Tunisie, le gouvernement envisage 3,71 milliards de dollars d'emprunts extérieurs en 2017, soit environ 1 milliard de dollars de plus que les prévisions initiales pour faire face à la hausse des dépenses et à la baisse des recettes fiscales. Cette hausse est due à un accord sur la majoration des salaires des fonctionnaires entre le gouvernement et l'Union générale tunisienne du travail. L'impact financier de cet accord est estimé à 18 millions de dollars sur la seule année 2017. Pour finir, le Nigeria prévoit d'émettre 20 milliards de naira d'obligations vertes durant le premier trimestre 2017 en vue de financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, des véhicules électriques destinés au transport urbain et la plantation d'arbres dans le nord du pays. Pays le plus peuplé d'Afrique avec 180 millions d'habitants, le Nigeria a besoin de plus de 6 000 milliards de naira, soit l'équivalent de son budget annuel, pour combler son déficit d'infrastructures.
Et on retrouve tout de suite la page sportive avec vous, Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir Tatiana.
Coupe du monde des clubs de foot, l'Afrique veut sauver l'honneur, Nicolas.
Dans le match pour la cinquième place, les Mamelodi Sundowns tenteront de battre les Sud-Coréens Gyeongbuk Hyundai. On rappelle que le perdant de ce match terminera bon dernier de la compétition. Malheur donc pour les Sud-Africains s'ils n'arrivent pas à gagner. À suivre plus tard, ce mercredi, la première demi-finale, l'équipe japonaise des Kashima Antlers face à la formation colombienne de l'Atlético Nacional. La seconde affiche opposera jeudi les Espagnols du Real Madrid aux Mexicains du club América.
La légende camerounaise Rigobert Song va beaucoup mieux.
Opéré le 7 octobre dernier à Paris, après un accident vasculaire cérébral, l'ancien joueur camerounais apparaît très amaigri mais souriant sur plusieurs photos sur les réseaux sociaux comme Twitter.
Le Cameroun encore est la préliste pour la CAN 2017 dévoilée.
Hugo Brousse, le sélectionneur du Cameroun, a dévoilé une présélection de 35 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Belge, âgé de 64 ans, n'a toutefois pas convoqué Stéphane Mbia, milieu de terrain qui joue au eBay China Fortune, ni Carlos Kameni, le gardien de but de Malaga en Espagne. On rappelle, Tatiana, que les Lions indomptables sont dans le groupe A de la CAN avec le pays organisateur, le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau.
Lewandowski prolonge avec le Bayern.
Robert Lewandowski prolonge jusqu'en 2021 avec le Bayern Munich. L'attaquant polonais arrivé libre au Bayern en 2014 était précédemment lié jusqu'en 2019 avec le club bavarois. On rappelle que le polonais a terminé meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière avec 30 buts. Il en a déjà inscrit 11 depuis le début de la saison.
Et enfin la NBA, championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Une attaque de feu avec les 36 points de James Harden, conjuguée à une défense de fer de Trevor Ariza, ont permis à Houston de se sortir du piège tendu par Brooklyn hier soir. Une 7e victoire consécutive pour les Rockets, 122 à 118. Les Clippers de Los Angeles ont eu très chaud à domicile face à Portland, 121-120. Et ce malgré les 26 points de Blake Griffin et les 21 points et 14 passes de Chris Paul. Enfin, dans la conférence Est, Toronto, emmené par DeMar DeRozan, 30 points, a conforté sa deuxième place avec une victoire sans trembler face à Milwaukee, 122 à 100.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
ravi d'être en votre compagnie. Tatiana Mosso et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Mali.
Pour parler d'immigration, 275 Maliens sont de retour dans leur pays, 266 venant de l'Algérie et 9 de la Guinée équatoriale. Ils ont tous été accueillis par les autorités de Bamako avant que certains regagnent leur famille et leur ville d'origine. Au niveau du centre d'accueil des Maliens expulsés, les 275 ont été recensés. Certains ont reçu des soins, d'autres des conseils et surtout un temps de repos après le long trajet Algérie-Mali. Via le Niger. Kassim Traoré nous en dit plus.
C'est une dizaine de cars bien escortés qui a ramené les Maliens d'Algérie. Un long trajet de Tamaracet à Bamako en passant par Niamey et Ouagadougou. À l'arrivée, ils ont été accueillis par le lieutenant Noum Koulibaly, responsable du centre d'accueil.
Ils ont été expulsés d'Algérie et que les autorités algériennes sont partis les déposer au niveau de Agadez, en République nigérienne. Ils ont quitté Agadez et arrivé à Niamey. Le vendredi, ils ont quitté Niamey pour venir à Bamako. C'est le même cheminement que pratiquement que le combat en provenant de la Guinée équatoriale. Et ils ont quitté Guinée équatoriale, Cotonou, Ouaga, Ouaga, Bamako.
D'après les Maliens expulsés d'Algérie, ils ont été arrêtés à Alger pour une question de vaccination et de contrôle médical. Mais cela s'est transformé en un cauchemar pour eux. Le tout dans un camp militaire. Youssouf Doumbia, arrêté sur le chemin de son travail à Alger.
Il nous a arrêté les premiers. Il demande pourquoi il nous a arrêté. Il dit qu'il va aller vacciner les gens. Il y a plein de nationalités. Après, on est parti dans leur camp. Ils sont regroupés beaucoup de gens là-bas. Après là-bas, il nous a maltraités, violemment frappé les gens, beaucoup violents. Parce qu'on a appelé l'ambassade malienne, mais l'ambassade malienne dit que lui, il est en mission. Il peut pas déplacer parce qu'il n'a pas de temps.
Parmi les 9 Maliens rapatriés de la Guinée équatoriale, figure Soumaïla Dolo de la région de Mopti.
On nous a arrêtés, on nous a mis en prison à Bata. On a passé un mois et quelques jours là-bas. Après, ils nous ont embarqués dans un bateau pour nous amener à la capitale. On a fait 3 semaines là-bas parce qu'il y avait des gens qui ont sorti avant nous. Et nous, on est sortis le dimanche passé. On a fait 3 semaines là-bas. On est sortis laisser des gens là-bas qui sont toujours en prison. Il y a plusieurs nationalités. Il y a des Maliens, des Burkinabés, les Ivoiriens de Guinée-Conakry.
Les 266 Maliens expulsés d'Alger travaillaient tous. Ils sont revenus sains et saufs, mais Youssouf Doumbia ne veut pas oublier ce qu'il a vécu dans les camps militaires des Zeralda.
Il nous a amenés là-bas, 20 km d'Alger. Après là-bas, il nous a mis dans le bus. Après bus, il nous a amenés jusqu'à la frontière Algérie et Niger. C'était là-bas, c'était Tamaracet. Après Tamaracet, bon, il nous a mis dans les camionnettes encore en Niger. Après Niger, c'est l'État malien qui nous a escorté jusqu'à ici avec des bus.
Lieutenant Noum Koulibaly.
Mais ce n'était pas uniquement que des Maliens. Il avait des Camerounais, il avait des Sénégalais, il avait des Ivoiriens. Ils sont partis les déposer tous. Ils étaient au nombre de 400, sensiblement égal à 500 personnes. C'est un premier convoi qui est arrivé de 266 personnes. Ça veut dire qu'il a un autre convoi qui est en cours de route.
Depuis le début de ce rapatriement des Maliens d'Algérie, les autorités maliennes n'ont fait aucune dénonciation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la volte-face en Gambie de Yahya Jammeh. L'ancien président est sous pression après sa brusque annonce de ne plus reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. La CDAO a dépêché une mission à Banjul. Qui peut le convaincre d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives du 18 décembre démarre dans 4 jours. La coalition du président Alassane Ouattara, c'est le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, lorgne la majorité absolue à l'Assemblée nationale constituée de 255 députés. Mais quelles sont les chances de l'opposition et de la kyrielle de candidats indépendants? Jacques Aristide s'est entretenu avec le journaliste indépendant Féro Bailly qui évoque d'abord les enjeux de ce scrutin organisé après l'adoption d'une nouvelle constitution.
Oui, je pense que ces législatives qui arrivent participent progressivement de la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le premier enjeu le plus important, c'est qu'on espère que la prochaine équipe qui va donc siéger à l'Assemblée nationale ne va plus être monocolore comme celle qui est en train donc de tirer sa révérence. parce que pour une fois, je pense que les jeux sont ouverts et il est possible donc que la prochaine Assemblée nationale, qui va être donc mise en place à partir du 18 décembre prochain, puisse refléter un peu l'architecture politique ivoirienne, en dehors du FPI, de la tendance Sangaré, qui n'a pas accepté du moins d'aller aux élections.
Malgré l'émergence de quelques frondeurs, la coalition du président Ouattara semble avoir une longueur d'avance. Alors, quelles sont les chances de l'opposition, d'après vous ?
L'opposition ivoirienne a une belle carte à jouer, parce que d'abord, comme vous l'avez si bien dit, le RHDP, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir, présente plusieurs candidats indépendants et l'enjeu est ce qui pourrait ensuite améliorer la situation de l'opposition, c'est que nombre de ces candidats dits indépendants ont été sanctionnés par donc la coalition politique au pouvoir. Donc l'opposition a une belle carte à jouer en essayant de tirer profit de cette division de la classe politique au pouvoir pour essayer un peu de tirer profit ou avantage de cette situation et se faire son nid au plan politique ivoirien.
Peut-on s'attendre à une surprise finalement ?
Nous espérons que les indépendants qui sont les plus nombreux d'ailleurs, ils sont les plus nombreux, ils constituent plus de la moitié des candidats actuellement retenus, que ces indépendants pourraient constituer un bon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, permettant un peu d'équilibrer les débats. Parce que l'Assemblée nationale de 2011 à 2016 était une caisse de résonance, il n'y avait aucun débat, tous les projets passaient comme des lettres à la poste. Et le nombre pléthorique d'indépendants pourrait permettre de constituer un bon groupe parlementaire pour équilibrer un peu les débats, pour enrichir les débats à l'Assemblée nationale, parce que un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de retrouver un peu des lettres de noblesse démocratique au niveau des débats parlementaires, parce que c'est là-bas que se décident toutes les lois et tous les grands textes qui engagent l'avenir du pays. Et donc, il serait intéressant que ces nombreux candidats indépendants puissent tenir la dragée haute et donc pouvoir être une force politique qui compte au niveau de l'Assemblée nationale.
Le journaliste ivoirien Ferro Bali était en ligne d'Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Suite de la série VOA Afrique sur Flint, où les habitants de cette ville du Michigan, ici aux États-Unis, ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Aujourd'hui, nous reparlons de ce scandale sous un autre angle. Il y a un an, la mairie de Flint déclarait l'état d'urgence. Et depuis plus de deux ans, des milliers de personnes ont lancé des procédures judiciaires. Nastasia Peteuil s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux de la crise. Elle a rencontré les personnes qui se battent nuit et jour pour obtenir gain de cause.
Depuis plus de deux ans, Melissa Mays milite pour obtenir justice après avoir été empoisonnée par l'eau de Flint. Cette mère de deux enfants fait partie d'une action collective pour demander des réparations. Ils sont 10 000 dans ce cas.
Nous visons l'État du Michigan, car ce sont eux les responsables. D'ailleurs, des employés ont été inculpés, ce qui prouve ce que l'on dit. On espère pouvoir faire changer les matériaux électroménagers détruits par l'eau, leur donner de nouvelles canalisations, de l'argent pour continuer à vivre et à s'en remettre. Personne ne va s'enrichir.
Les habitants sont en colère et souhaitent poursuivre en justice l'État du Michigan et le comté. Pendant plusieurs mois, l'administration a caché à la population que l'eau n'était pas potable. Rachel Young, avocate, défend les habitants depuis le début. Elle a tenté de poursuivre en justice l'État pour près de 6 500 personnes. Mais l'État a répondu qu'il n'était pas condamnable.
L'État nous a dit « Oui, on a mis la pagaille, nous nous sommes trompés, mais nous sommes le gouvernement, nous étions de bonne foi et vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice ».
Les habitants vivent donc quotidiennement avec un sentiment d'injustice. L'État est intervenu au début de la crise, mais n'est plus présent depuis plusieurs mois sur le terrain. Après avoir été empoisonnés pendant 18 mois, les familles cherchent des compensations financières.
Les habitants ont un sentiment d'injustice, car le gouvernement déclare qu'il n'est pas responsable pour les dégâts ou du fait que les enfants ont été empoisonnés ou que les habitants ont des rougeurs ou des pertes de cheveux et autres. Ils disent ne pas être responsables de leurs mensonges ou d'avoir déclaré que l'eau était potable alors que l'on envoyait des bouteilles d'eau aux fonctionnaires.
Plusieurs procès collectifs sont en cours. Pour l'instant, aucun recours n'a abouti. Les résidents de Flint doivent payer pour avoir ingéré de l'eau contaminée avec leurs propres deniers. Les conséquences sanitaires sont graves. Les enfants de moins de 3 ans et les nourrissons auront des conséquences à vie. Un drame pour les familles.
Demain, nous parlerons des conséquences sur la santé à long terme pour les habitants de Flint. Vous pouvez aussi suivre le reportage « L'eau de la colère » sur notre site internet voaafrique.com.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a choisi Rex Tillerson, PDG du géant pétrolier ExxonMobil, comme candidat au poste de secrétaire d'État. Tillerson a des liens personnels avec le président russe Vladimir Poutine. Et sa nomination intervient alors que la CIA accuse la Russie d'une série d'actes de piratage informatique qui auraient visé à influencer la présidentielle américaine en faveur du républicain Trump. Pour une analyse, Timothée Donagmaï a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
D'abord, c'est un homme qui connaît beaucoup de chefs d'État parce que Exxon a des opérations partout dans tous les continents. Donc, c'est un atout, n'est-ce pas? Mais il a un problème parce qu'il est très ami avec le président de la Russie et beaucoup de monde ici regarde la Russie comme un adversaire et pas un ami. Donc, les gens se posent des questions. S'il est très ami avec président Poutine, est-ce qu'il pourrait faire une politique envers la Russie dans les intérêts des États-Unis?
Le président élu Donald Trump a adopté une attitude très ferme, très rigide par rapport à la Chine. Qu'est-ce que cela signifie pour Tillerson?
Monsieur Trump est surtout un homme d'affaires et regarde le monde comme un endroit où est-ce qu'on va gagner de l'argent, est-ce que nous allons perdre de l'argent, est-ce que nos accords de commerce extérieur sont justes pour les États-Unis. Et il regarde la Chine comme un adversaire parce qu'il croit que la Chine triche dans beaucoup de domaines, surtout dans le commerce extérieur. Donc il cherche un moyen de faire pression sur la Chine. Et il a commencé avec le sujet de Taïwan, qui est un sujet très sensible pour la Chine.
Si Tillerson est confirmé, il héritera du brûlant dossier du Moyen-Orient, avec notamment la Syrie, mais aussi l'Iran. Comment voyez-vous les choses de ce côté?
Le président Trump a dit qu'il ne faut pas que les États-Unis se mêlent dans tous les problèmes du monde. Il y a des problèmes aux États-Unis qu'il faut résoudre. Donc, il ne faut pas intervenir. Donc, dans ce domaine, il est plus ou moins d'accord avec le président Obama. Ce n'est pas notre rôle de trouver une solution pour la Syrie. Et surtout, il ne faut pas envoyer des soldats américains pour se faire tuer. Pour l'Iran, le président élu Trump commence avec une grande suspicion de l'Iran. Il appelle l'Iran le plus grand sponsor de terrorisme dans le monde. Donc, je crois qu'il va chercher des moyens d'être méchant avec l'Iran.
Quelles sont les chances de confirmation de Rex Tillerson au Congrès?
Oh, je crois qu'il sera confirmé, mais il y a des sénateurs, soit républicains, soit démocrates, qui vont poser des questions très dures. À Monsieur Tillerson, vous êtes un très bon ami avec Poutine. Comment voulez-vous faire une politique envers la Russie qui est dans les intérêts des États-Unis? Il y a beaucoup de gens qui disent vous allez être une marionnette de Poutine. Donc, il va devoir répondre à des questions très dures pendant le témoignage pour confirmation.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde. Georges Sagnot et Nachwan Kale, Tatiana Mosso et Gabi Dorsil étaient à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bye-bye.